Sous le dôme arc-en-ciel. Chapitre 1. Nicole ne pouvait s'endormir. Finalement, elle se leva et sortit dans la grande salle de leur nouvelle résidence. La clarté du dôme décroissait pendant 8 heures chaque jour, et les alcôves étaient assez obscures pour favoriser le repos des humains. Mais elle avait désormais un sommeil agité. Des rêves rapidement oubliés l'éveillaient en sursaut. Tout en essayant en vain de reconstituer le dernier, elle fit le tour de la pièce circulaire. Du côté opposé, près du quai de la station de métro, elle s'arrêta et scruta les ténèbres du tunnel qui passait sous la mer cylindrique.
Que se passe-t-il ici? Quelle puissance ou intelligence veille sur nous?
Il vivait en ce lieu depuis 4 semaines. Ces quartiers avaient été spécialement aménagés à leur intention. Les chambres et les salles de bain étaient identiques à celles du Nouvel Éden. Après leur arrivée, ils avaient reçu par le premier métro de la nourriture, de l'eau, des couches, des chaises et des tables pour meubler les zones de séjour. Ils avaient même eu droit à des assiettes, des verres et des couverts. Qui connaissait si bien les besoins des humains?
Des êtres qui nous ont longuement observés,
se dit-elle en pensant à l'aigle. Elle se reprocha de prendre ses désirs pour des réalités.
Mais seuls les Raméens et l'intelligence nodale disposent de suffisamment d'informations sur notre compte.
Un bruit rompit le fil de ses pensées. Elle se tourna et vit Max s'approcher.
Vous ne pouviez pas dormir, vous non plus?
Demanda-t-il. Elle secoua la tête.
Je fais constamment des cauchemars ces derniers temps.
Moi, je m'inquiète pour Éponine.
Et toi, Ali, es-tu en sécurité? Ou Max a-t-il raison au sujet de tes ravisseurs?
Je ne peux plus rester ici à attendre,
ajouta-t-il.
Je dois tenter quelque chose.
Quoi?
Ce foutu métro est notre seul lien avec l'extérieur. Lorsqu'il reviendra nous apporter des vivres, je monterai à bord. Je descendrai au premier arrêt pour me faire capturer par les octopodes.
Il paraissait désespéré.
Il faudrait pour cela que vous les intéressiez. En outre, nous avons besoin de vous ici.
Certainement pas. Nous n'avons pas d'autre activité que bavarder et jouer avec les enfants. À New York, nous pouvions au moins nous promener. Ali et Éponine sont peut-être mortes, ou pire.
Ils virent des lumières clignoter dans les profondeurs du tunnel.
Il revient,
dit Max.
Je vous aiderai à le décharger après avoir terminé mon paquetage.
Il repartit en courant vers sa chambre. Nicole attendit le métro. Comme toujours, le tunnel s'éclairait devant lui. Quelques minutes plus tard, il s'arrêta sur le quai et sa porte s'ouvrit. En plus de 4 pichets d'eau, elle y trouva un assortiment de ces légumes que les humains avaient appris à apprécier et un gros tube d'une matière gluante dont le goût rappelait les oranges et le miel.
Où est produite cette nourriture?
Se demanda Nicole en commençant à décharger les provisions. Ils avaient émis de nombreuses hypothèses et fini par conclure qu'il devait y avoir de grandes fermes dans l'hémicylindre austral. Déterminer qui leur fournissait tout cela donnait lieu à plus de controverses. Richard avait la conviction que leurs bienfaiteurs étaient les octopodes et il était exact que le ravitaillement devait traverser leur territoire. Mais Max leur attribuait de sombres desseins. Si ces créatures agissaient ainsi, ce n'était certainement pas par pur altruisme.
Pourquoi pourvoirait-il à nos besoins?
Se demanda Nicole.
L'enlèvement d'Ali et d'Éponine ne colle pas avec le reste. N'y a-t-il pas une autre espèce qui a décidé d'intercéder en notre faveur?
Elle espérait qu'un peuple arc-en-ciel, occupant un rang élevé dans la hiérarchie raméenne, ordonnait aux octopodes de les nourrir. Une surprise était toujours jointe à ses colis. Cette fois, il s'agissait de 6 balles de taille et de couleurs diverses.
Regardez !» fit-elle remarquer à Max, qui revenait avec son sac à dos. « Ils ont pensé à envoyer des jouets aux enfants !»«
Quelle délicate attention »
fit-il sur un ton caustique. Ils terminèrent le déchargement des colis, puis Max alla s'asseoir sur le plancher du véhicule.
« Vous comptez attendre longtemps ?»
voulut savoir Nicole.
« Autant qu'il le faudra. »«
Avez-vous parlé de vos projets à nos compagnons ?»«
Je suis libre d'agir comme bon me semble, non ?»«
Désolé, je commence à craquer. Éponine a disparu il y a un mois, je n'ai plus de cigarettes et je suis à bout de nerfs. » »«
Je comprends, Max, » fit-elle en l'étreignant. « J'espère seulement qu'il ne vous arrivera pas malheur. »
Le métro ne repartait pas, mais Max refusait avec obstination d'en descendre, même pour aller aux toilettes. Ses amis lui apportaient des repas et de quoi garder le véhicule dans un état de propreté acceptable. À la fin du troisième jour, leur réserve de nourriture s'était sérieusement amenuisée.
« Nous devons lui parler »,
déclara Robert quand les enfants se furent endormis.
Il est évident que le métro ne repartira pas tant qu'il sera à bord.
J'avais l'intention de lui en toucher deux mots dans la matinée,
dit Nicole.
Les vivres commencent à manquer et nous ignorons combien de temps leur sera nécessaire pour...
Nous en avons pour deux jours en nous rationnant,
l'interrompit Richard. Nous sommes tous nerveux. Mieux vaut en parler à Max après une bonne nuit de sommeil.
Que ferons-nous s'il refuse d'entendre raison ?
Demanda-t-il lorsqu'il fut seul avec Nicole.
Je ne sais pas. Patrick m'a posé la même question. Il estime que Max est capable de tout.
Richard s'endormit alors qu'elle cherchait toujours la meilleure approche.
Il faut éviter un affrontement. Je dois le rencontrer seul, sans témoin. Mais que pourrais-je lui dire? Et que ferais-je s'il s'obstine?
L'épuisement la terrassa. Et elle fit d'autres cauchemars. Un incendie ravageait la maison de Beauvois et elle ne pouvait retrouver Geneviève. Puis elle se vit à l'âge de 7 ans en Côte d'Ivoire pour la cérémonie du poro. Elle nageait à moitié nue dans l'étang d'une oasis. Sur la berge rôdait une lionne. La fillette plongea pour se dissimuler. Lorsqu'elle refit surface, 3 octopodes avaient remplacé le félin.
« Maman ! Maman !»
lui cria Ali. Elle se dirigea vers la rive en scrutant les alentours.
« Nous allons bien, maman. Ne t'inquiète pas pour nous. »
Où était Ali ? Nicole discerna une silhouette loin derrière les extraterrestres. Elle l'appela et la forme obscure s'avança sous le clair de lune.
« Homé ! »
s'exclama-t-elle en tremblant de terreur. On la secouait et elle se réveilla. Richard était assis près d'elle dans leur lit.
« Est-ce que ça va, ma chérie ? Je t'ai entendu crier. » « J'ai fait un autre rêve, »
dit-elle en se levant pour s'habiller. Éponine et Ali sont saines et sauves. Elle termina de s'habiller.
« Où vas-tu à cette heure ?»« Parlez à Max. »
En sortant de l'alcôve, elle leva machinalement les yeux et vit une sorte de plateforme sous le dôme.
Pourquoi ne l'ai-je jamais remarqué? Parce que la clarté est différente en plein jour? Ou parce que ce palier est de construction récente?
Max dormait sur le plancher de la voiture et elle lui murmura à l'oreille.
Max, réveillez-vous, Max.
Il ouvrit les yeux et la fixa, comme s'il voyait un spectre.
J'ai fait un songe, Max, et je sais qu'Ali et Éponine vont bien. Je suis venu vous demander de renoncer à vos projets afin que...
Elle s'interrompit en le voyant se lever. Qu'il eût immédiatement accepté la sidérait. Dès qu'il fut sur le quai, le métro repartit.
Quand vous m'avez réveillé, je faisais moi aussi un rêve.
Lui expliqua-t-il.
Éponine me disait que vous aviez un message important à me communiquer.
Il frissonna, puis rit et se dirigea vers les alcôves.
Je ne crois pas à ces foutaises de perception extrasensorielle, mais je dois reconnaître que la coïncidence est troublante.
Le métro revint avant la tombée de la nuit. Il s'agissait cette fois de deux voitures. La première était éclairée et bondée de nourriture et d'eau. La deuxième était obscure et close.
Tiens, tiens, qu'est-ce qu'elle nous amène ?
Fit Max en essayant vainement d'ouvrir ses portes. Ils déchargèrent les vivres, mais la rame ne repartit pas. Ils se lassèrent d'attendre et allèrent dîner. Ils firent de nombreuses spéculations au cours de ce repas, et quand Kepler suggéra qu'Éponine et Ali étaient peut-être dans la seconde voiture, Nicole parla du jour où elle avait découvert Richard, plongé dans un coma profond, après son long séjour chez les octopodes.
« Il faudrait monter la garde !»
déclara Max.
« Pour qu'il ne puisse pas nous attaquer par surprise pendant que nous dormons !»
Il se porta volontaire. Patrick et Richard en firent autant. Tous retournèrent sur le quai.
« Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, maman ?»
demanda Benji.
« N'en ai pas la moindre idée, mon chéri !»
lui avoua Nicole. Une heure avant le lever du jour, Max et Patrick allèrent réveiller Richard et Nicole.
« Venez voir !»
leur dit Max avec surexcitation. La salle était occupée par quatre créatures noires qui ressemblaient à des fourmis de 2 mètres de long. Chacun de leurs 3 segments corporels avait une paire de pattes et 2 appendices préhensiles articulés avec lesquels ils s'affairaient à empiler du matériel. Ses bras, souples comme des serpents, étaient aussi habiles que des trompes d'éléphant, mais lorsqu'ils n'étaient pas utilisés pour soulever une charge ou servir de balancier, ils se rétractaient dans les flancs et y restaient lovés. Les humains regardèrent ces étranges insectes décharger la seconde voiture, puis y remonter. Le métro repartit et Max, Patrick, Richard et Nicole allèrent examiner les piles de plus près. S'y trouvaient des objets de toutes formes et dimensions, mais principalement de longues pièces plates ressemblant à des marches d'escalier.
« Ça sert à quoi, oncle Richard ?»
demanda Patrick. « Je présume qu'ils vont construire quelque chose. »«
Et qui sont ces êtres ?»
Richard haussa les épaules. « Des animaux domestiques capables d'effectuer des tâches complexes sans avoir pour autant de véritables pensées.
« Ils n'appartiennent pas au peuple arc-en-ciel de maman ?»«
Certainement pas !»
affirma Nicole en souriant. Ils informèrent leurs compagnons de la venue de ces créatures lors du petit déjeuner et décidèrent de s'en tenir à l'écart désormais si leurs activités semblaient représenter pour eux une menace. Quand le métro revint, 3 heures plus tard, 2 de ces êtres en descendirent et gagnèrent le centre de la salle. Ils s'étaient munis de petits pots dans lesquels ils trempaient régulièrement un de leurs bras pour tracer des marques rouges vives sur le sol. Des lignes qui délimitaient un secteur englobant le quai et les piles de matériaux. Peu après, une 12aine d'autres fourmis aux appendices proboscidiens descendirent des 2 voitures. Plusieurs transportaient sur le dos de grosses structures incurvées. Elles étaient suivies par 2 octopodes qui inspectèrent les lieux, puis leur ordonnèrent de se mettre au travail.
Le mystère s'épaissit,
commenta Max,
même s'il est désormais évident que ce sont les octos qui commandent.
Regarde, Nicole,
dit Richard en tendant le doigt. Une fourmi lisait le message que lui adressait un octopode.
Que devons-nous faire ?
Demanda-t-elle à voix basse.
Attendre la suite.
Les bâtisseurs ne sortaient pas du secteur délimité par les lignes peintes sur le sol. 1 heure plus tard, un autre chargement d'éléments incurvés avait été livré et déchargé. Les contours de la construction commençaient à apparaître. Les fourmis érigeaient près de la paroi de la salle un cylindre vertical de 4 mètres de diamètre. Lorsqu'elles eurent atteint la hauteur du pourtour inférieur du dôme, elles utilisèrent les marches pour assembler à l'intérieur un escalier en hélice. Elles travaillèrent sans interruption pendant 36 heures sous la surveillance des maîtres d'œuvre octopodes. Seuls Max et Nicole étaient encore debout quand les extraterrestres terminèrent l'escalier, récupérèrent les matériaux restants et repartirent. Max alla jeter un coup d'œil dans la tour.
« Impressionnant !»
fit-il.
« Mais ça sert à quoi ?»«
Allons, Max. Il est évident que nous sommes censés gravir ces marches. »«
Ça, je m'en serais douté. Mais dans quel but ? Ces monstres nous manipulent depuis que nous avons pénétré dans leur antre. Ils ont enlevé Éponine et Ali, ils nous ont transférés dans l'hémicylindre austral et ils m'ont interdit de regagner New York. Que ferait-il si nous n'agissions pas comme il le désire ?
Je préférais reprendre cette conversation dans la matinée. Je tombe de fatigue.
Il faut conseiller à votre mari de faire quelque chose d'imprévisible. Repartir à pied dans ce tunnel, par exemple.
Notre marge de manœuvre est réduite, étant donné que nous dépendons des octopodes pour notre ravitaillement. Il faut avoir foi en eux.
La foi est l'excuse de ceux qui ont peur de réfléchir. Et cet escalier peut conduire en enfer aussi bien qu'aux cieux.